Bien, en tout cas, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Un grand merci également, enfin merci à Sylvain et merci à l'équipe de la librairie La Cavale qui nous accueille ce soir, mais aussi et surtout d'avoir accepté de devenir l'un des partenaires privilégiés du bistrot. Nous sommes ravis de ce rapprochement. C'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais bon, confinement oblige. Donc cette première rencontre à La Cavale officialise en quelque sorte cette alliance. Donc peut-être pour rappel, les rencontres ont lieu à La Fenêtre, c'est un centre d'art et d'exposition au 27 rue Frédéric Pesson, c'est non loin de la gare, mais aussi parfois, comme ce soir, c'est des rencontres dites hors les murs. Donc je vous invite à consulter notre site sur lequel vous retrouverez l'intégralité du programme, puisqu'on est en gros une rencontre par mois. J'en viens donc à notre invité de ce soir. Donc je vous rassure, Nicolas, je n'ai absolument pas l'intention de vous infliger le type de présentation qui s'apparente à une nécrologie avant l'heure. Je ne vais pas non plus divulgâcher, comme disent les Québécois, le contenu de votre livre. Vous vous en chargerez très bien vous-même de sa présentation. On vous a d'ailleurs invité pour ça. Donc je me contenterai de dire que vous êtes sociologue, membre du CRESPA, le Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris. Vous êtes enseignant-chercheur à Paris 8. Donc peut-être un peu plus sérieusement, dans un ouvrage bien connu, on en parlait d'ailleurs à l'instant, des apprentis sociologues et anthropologues, disons des socio-anthropologues pour dépasser les sempiternels clivages disciplinaires, Florence Weber et Stéphane Beau rappelaient, je cite, « Il n'y a rien de pire qu'un sociologue désintéressé, à savoir un sociologue qui ne serait en fait intéressé que par sa propre carrière ». Je ne crois pas trop m'avancer, Nicolas, en disant que ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un sociologue qui, derrière le désir de connaissance et la volonté de comprendre, n'hésite pas à prendre position dans le débat social ou politique en défendant des causes ou dénonçant des pratiques. Vos précédentes enquêtes, Nicolas, en témoigne. Pour un rappel rapide, dans « Chantier interdit au public », enquête parmi les travailleurs du bâtiment, paru en 2008, après vous être immergé dans le quotidien des chantiers en tant qu'ouvrier durant un an, vous exposez les conditions d'emploi et de travail liées au recours croissant à la sous-traitance et à l'intérim. Infériorisation des travailleurs soumis à ces régimes, division des collectifs ouvriers, pratiques illégales d'employeurs, contradictions pesant sur la sécurité au travail, recours massif à une main-d'œuvre étrangère fragilisée, racisme, discrimination, etc. En 2011, dans « On bosse ici, on reste ici », la grève des sans-papiers, une aventure inédite, fruit d'une enquête collective accompagnée de Pierre Baron, Anne Bory, Lucie Tourette et Sébastien Chauvin. Vous relatez, toujours à hauteur d'homme, le mouvement de grève de 300 travailleurs sans-papiers qui occupent leurs entreprises, en région parisienne. Ces grèves ont révélé que des pans entiers de l'économie, construction, nettoyage, restauration, confection, aide à la personne, des petites aux grandes entreprises, du traiteur du coin au familier du pouvoir, de l'intérim au ministère, repose sur le recours à une main-d'œuvre qui, privée de titre de séjour, devient la proie et l'instrument du dumping social. Enfin, dans un ouvrage un peu différent, on en parlait aussi à l'instant, « Voyage de classe, des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers » en 2014, vous relatez l'expérience vécue avec vos étudiants que vous initiez à l'enquête de terrain en leur proposant d'enquêter dans trois quartiers bourgeois du 8e arrondissement de Paris. Sous des airs de manuel de méthodologie et avec quelques pointes d'humour, ce qui ne gâche rien, cet ouvrage est aussi et avant tout peut-être un compte-rendu de stage de terrain. Il n'en demeure pas moins une expérience intrinsèquement politique dans le sens où l'enquête menée par vos étudiants et étudiantes, parachutés dans les quartiers chics parisiens, pour découvrir le gouffre social qui les sépare de leurs enquêtés. Il s'agit cette fois de mieux comprendre le monde social dominant pour, je vous cite, « renverser l'habitude qui veut que ce soit ceux d'en haut qui inspectent l'existence de ceux d'en bas ». Entre les lignes, on comprend que cet ouvrage participe de la vocation des sciences sociales à comprendre autant qu'à faire bouger la société pour plus de justice, d'émancipation et de qualité de vie. On l'aura compris, Nicolas, le citoyen n'est jamais loin derrière le chercheur et le chercheur est toujours derrière le citoyen. Rien n'oblige en effet le chercheur à ne s'intéresser qu'à des thèmes purement académiques, sans aucun impact social. C'est d'ailleurs en prenant part à la marche de la société qu'il peut en saisir la dynamique profonde. Cette réflexion d'Alban Bensa, venue à deux reprises au bistrot des ethnologues, est disparue il y a tout juste un mois. Illustre pleinement, du moins je le crois, la conception que vous donnez à voir des sciences sociales et de leurs pratiques. Votre travail s'insère dans le débat scientifique, mais il n'en reste pas là. Il prend aussi place, en tant que produit de recherche, dans le débat citoyen. Lorsqu'on vous lit, on comprend que la fonction citoyenne n'est pas totalement coupée du processus de recherche. Mais comme le souligne très justement Jean-Pierre-Olivier de Sardan, que nous recevrons le 4 janvier prochain, c'est en amont et en aval de celui-ci qu'elle peut le mieux s'exercer. En amont, par le choix du sujet. En aval, par une sorte de service après-vente du produit de la recherche qui permet aux chercheurs de dialoguer autour de ces résultats avec les acteurs sociaux concernés, que ce soit les groupes sociaux investigués, les décideurs des politiques publiques, le secteur associatif ou les syndicats. Il est donc vain d'opposer recherche et engagement. La frontière entre l'engagement et la recherche est poreuse et la circulation se fait dans les deux sens. Cela dit, en vous lisant, pas de confusion possible. Vous ne cherchez pas à faire passer des indignations pour des arguments scientifiques et à substituer aux démonstrations logiques des condamnations morales. Vos enquêtes de terrain montrent que l'engagement peut être partie prenante et non une entrave à la connaissance scientifique. Elles trouvent ainsi leur pertinence dans leur capacité à rendre le chaos du monde social un peu plus intelligible. Ce soir, c'est à nouveau via une enquête par immersion que vous tentez de nous livrer votre compréhension d'un fragment du monde social. L'heure n'est plus en effet au délestage empirique et à la division du travail. Vous mouillez la chemise, vous plantez votre tente au milieu du village, pour reprendre l'expression bien connue de Malinowski. Observateur participant, vous vous faites plutôt, comme dans vos précédentes enquêtes, participant observateur. Dans Cachet de la Poste, enquête sur l'organisation du travail des facteurs, vous vous êtes fait engager incognito pendant quelques semaines comme facteur en CDD. Vous nous embarquez dans les arcanes de la Poste dans le but d'étudier les conditions de travail de nos familiers, mais souvent bien mal connus, facteurs et factrices. Une fois de plus, vous montrez que nous sommes souvent aveugles à ce qui nous est le plus proche. Pour le reste, je vous laisse la parole. Vous êtes venu pour ça et nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci infiniment, Nicolas, d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole.
Bah, merci beaucoup et pour l'invitation et pour la présentation. Je suis très heureux d'être là, donc à l'invitation aussi de la librairie. Très heureux de voir des gens en vrai. Et je trouve que c'est très courageux de la part du Bistrot des Ethnologues de reprendre un peu cette série de rencontres tout à fait intéressantes. Au lieu de vous promettre des mondes lointains et mystérieux et des cosmologies ésotériques, moi j'arrive avec des facteurs au bas des tours des cités, des algorithmes de la Poste et une hypothèse assez banale et à peu près aussi vieille, au moins aussi vieille que le capitalisme, c'est celle qu'un employeur, en l'occurrence la Poste, a cherché à obtenir et a probablement réussi à obtenir davantage de travail de la part de ces facteurs. Je m'arrête aux facteurs, c'est 70 000 personnes, la Poste c'est plus de 200 000, donc je m'arrête à ce petit contingent-là, à ce métier très particulier qu'on peut avoir l'impression de connaître et que j'avais l'impression de connaître aussi de l'extérieur parce qu'on voit régulièrement des facteurs dans leur voiture, sur leur vélo ou à pied quand on est à Paris et peut-être dans d'autres agglomérations. Mais moi j'ai découvert beaucoup de choses en enquêtant, j'espère pouvoir partager ça avec vous et j'ai donc découvert cette bataille qui se joue, qui se lit assez peu par exemple dans les grands titres de la presse nationale, mais qui, si vous êtes abonné à une presse quotidienne régionale quelconque, se lit assez régulièrement à travers des conflits, des grèves qui sont toujours éparpillées, enfin quasiment toujours éparpillées, mais qui révèlent donc des conflits très forts sur la question du rythme de travail et de la charge de travail. Et donc c'est de cette chose-là un peu prosaïque dont je vais essayer de parler aujourd'hui. Alors, non seulement je ne viens pas de vous parler de monde très lointain, mais le pire du pire, c'est que j'ai préparé un PowerPoint. Donc, c'est vraiment moche. Un PowerPoint, donc j'ai mis des... j'ai mis des heures et des... Ah, on peut... Je ne pensais pas. Franchement, ce n'est pas très... J'ai mis des heures et des heures à le préparer. Néanmoins, je vous épargnerai. C'est un PowerPoint avec un graphique que je vais vous décrire. Donc, si vous ne voyez pas, ce n'est pas très, très grave. C'est un graphique sur la productivité des facteurs. Alors, productivité des facteurs au sens les postiers, hein, pas des économistes pourraient un peu se tromper quand on dit productivité des facteurs. Mais on a deux courbes, donc c'est quand même plus facile même de loin. On a une courbe qui est la productivité des facteurs au regard du nombre de boîtes aux lettres à distribuer. Et une courbe, c'est la productivité des facteurs au regard du nombre d'objets à distribuer, enfin du nombre de boîtes aux lettres à desservir plus exactement, et du nombre d'objets ordinaires à distribuer. Si on part du principe qu'on part du même point, donc on se met en base 100, comme on dit, en 2013, on part du même point, alors c'est un point fictif, hein, puisque quand on parle de boîtes aux lettres, ça se compte en dizaines de millions, et quand on parle d'objets, ça se compte en milliards. Mais si on part d'un même point, on voit la courbe rouge qui monte, que la productivité des facteurs, de vos factrices et de vos facteurs, ne cesse d'augmenter parce qu'ils sont de moins en moins nombreux et ils desservent de plus en plus de boîtes aux lettres. Mais en même temps, si on regarde l'autre courbe, c'est-à-dire la productivité des facteurs au regard du nombre d'objets distribués, cette productivité diminue, c'est-à-dire que les facteurs ont beau être de moins en moins nombreux, ils distribuent individuellement de moins en moins de courriers. Pourquoi ça ? Parce que vous envoyez des mails et que vous recevez votre avis d'imposition sur Internet. Ce sont les deux principales raisons pour raccourcir. Et pourquoi je commence par ça ? Parce que c'est la toile de fond de tout ce que je vais raconter, c'est le problème de la poste. Cette courbe qui monte et qui pourrait faire l'honneur de la poste et des facteurs, c'est-à-dire qu'ils desservent de plus en plus de boîtes aux lettres, cette courbe qui monte, elle n'intéresse pas la poste parce qu'elle ne rapporte rien. Un raccordement postal, ça ne rapporte rien, c'est la différence avec votre boîte Internet. Votre boîte Internet, vous payez en tant que récepteur pour recevoir un flux. Votre boîte aux lettres, en revanche, vous ne payez pas, à part quelques entreprises qui peuvent avoir des contrats spécifiques. En général, le récepteur ne paie pas pour recevoir son flux de courrier. Donc cette productivité est une productivité cachée, non valorisée et qui n'intéresse pas la poste, qui en termes de service public pourrait tout à fait être valorisable, hein, mais qui d'un point de vue commercial, et la poste c'est une société anonyme qui vise à faire du profit, même si son actionnaire c'est l'État à hauteur d'un tiers et la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de deux tiers, donc c'est encore l'État mais indirectement, cet actionnaire entend que la poste fasse du profit. Et pour faire du profit, cette productivité-là ne sert à rien. Tout se joue dans le fait que le nombre de courriers diminue, que vous recevez individuellement de moins en moins de courriers, et donc que toutes les raisons de faire du profit s'évanouissent, mais s'amenuisent. Et donc la Poste essaye de courir après cette contradiction économique. La Poste n'a pas d'autres relais de croissance comme France Télécom, sa cousine, puisqu'elle est, donc, fut un temps, c'était les PTT. Ça a été scindé au début des années 90, puis France Télécom a été privatisé beaucoup plus vite. Enfin, la Poste n'est toujours pas privatisée en termes de à qui appartient le capital. France Télécom a trouvé des relais de croissance à travers Internet et la téléphonie mobile. La Poste n'a pas encore trouvé, elle cherche, hein, mais elle n'a pas trouvé de relais de croissance qui peut contrebalancer cette diminution des volumes de courrier physique qui fait l'essentiel de son chiffre d'affaires dans sa branche courrier. La Poste, c'est aussi la banque postale. Donc là, c'est d'autres contradictions, d'autres problèmes. C'est comment cesser d'être la banque des pauvres. Mais je ne l'évoquerai pas maintenant. Donc cette toile de fond, elle est là, c'est cette contradiction économique qui fait qu'on a de plus en plus, on a autant de routes à parcourir, voire plus, on a de plus en plus de boîtes aux lettres à desservir, mais pour de moins en moins de courriers, donc avec de moins en moins de recettes. Et donc le besoin en charge de travail ne diminue pas aussi vite que, que les recettes. Pour sortir de cette contradiction, la Poste a un certain nombre de stratégies que je ne vais pas tout développer parce que c'est pas mon sujet, mais qu'on peut avoir en tête, comme le fait d'augmenter le prix du timbre. Ça augmente beaucoup plus vite que l'inflation au cours des 10-15 dernières années, donc c'est un moyen de compenser la baisse des recettes en prenant le risque aussi que ça détourne encore plus les gens du courrier. Ça va être aussi de mécaniser, de faire par des machines du travail qui était fait par des humains. Et donc, il y a tout un processus depuis une vingtaine d'années d'industrialisation très forte du tri du courrier. Le métier d'un facteur, on n'en a pas forcément idée ou c'est assez vague parce qu'on voit le facteur dans la deuxième partie de son travail. La deuxième partie de son travail, c'est le moment où on distribue. Mais il y a toujours un premier temps au centre de distribution du courrier où on va trier le courrier pour dire que tel courrier va sur telle rue, donc telle tournée. Et puis ensuite, quand on est sur sa tournée, pour trier le courrier dans l'ordre de la tournée, puis de telle sorte qu'on n'a pas besoin de trier pendant qu'on est en train de faire sa tournée. On a le courrier qui se présente logiquement dans l'ordre des adresses qu'on va parcourir. Ce travail de tri-là, il a été de plus en plus ramené en amont dans les centres de tri à des machines. Et donc, la part que les facteurs consacre au tri a eu tendance à diminuer. Grosso modo, il y a 15-20 ans, c'était moitié-moitié dans une journée de travail de facteur, moitié tri au centre, et puis après, on part sur sa tournée. Maintenant, ça va être plutôt de l'ordre du 1/4, 3/4. Avec des fois, je l'évoquerai peut-être, du 0-100%. Donc il y a une mécanisation, on remplace du travail humain par du travail de machine. Il y a aussi tout un jeu de plus en plus sur le délai des correspondances et le fait de se présenter chez vous ou pas pour distribuer du courrier. Vous avez peut-être observé que depuis le Covid, le samedi, vous avez beaucoup moins de courriers. Et ça a été... C'était probablement un projet que la Poste avait dans les cartons depuis un certain moment. Le Covid a été le prétexte pour le mettre en œuvre et c'est désormais présenté comme pérennisé. Donc ça permet d'économiser sur les déplacements des facteurs, puisque c'est un coût fixe du point de vue de la Poste, d'économiser sur le déplacement des facteurs qui viennent donc moins souvent chez vous le samedi. Et dans les zones rurales, on retrouve ça aussi, le même principe en semaine. Donc ça, c'est différentes stratégies que je n'évoquerai pas plus que ça. Et l'autre stratégie, un peu plus basique et un peu plus brutal, c'est d'obtenir davantage de travail des facteurs. C'est de faire en sorte que dans un même temps, ou dans un même temps fictif, on y reviendra, ils distribuent davantage de courriers et desservent davantage de boîtes aux lettres. Et donc leurs tournées sont périodiquement rallongées. Et c'est ça que j'essaie de décrire dans le livre. C'est la manière dont la Poste rallonge les tournées et arrive à obtenir davantage de travail des facteurs. Alors, mon hypothèse, c'est que la Poste a réussi. C'est pas évident à prouver d'un point de vue quantitatif. Parce que mon hypothèse, c'est que la Poste a obtenu davantage de temps de travail des facteurs et aussi d'intensité de travail des facteurs. Et le temps, c'est plus ou moins prouvable. Je vous fais grâce de la deuxième diapo, hein, c'est déjà fini avec le PowerPoint, mais je l'ai en réserve si jamais vous voulez voir. Du point de vue du temps, c'est à peu près prouvable grâce aux grandes enquêtes quantitatives du ministère du Travail et de l'INSEE sur le travail ou à travers les déclarations des facteurs. Grosso modo, on voit que oui, effectivement, au cours des dernières années, leur temps de travail effectif a augmenté, alors que le temps de travail, par exemple, des employés et des ouvriers, il a plutôt stagné. Donc on est dans une logique qui est en décalage avec le reste des catégories socioprofessionnelles auxquelles ils appartiennent. Étant entendu que par ailleurs, ils ont une suggestion plus grande puisqu'ils travaillent souvent 6 jours sur 7, avec des fois des RTT, des repos de cycle, mais ils travaillent beaucoup. Ils travaillent en moyenne 5,5 jours par semaine, alors que les employés et ouvriers travaillent en moyenne 5 jours par semaine, comme beaucoup de monde. Donc, en termes de temps de travail, on peut prouver effectivement que la Poste a obtenu qu'ils travaillent davantage. La question, c'est est-ce qu'ils ont travaillé aussi de manière plus intense, qui est, depuis le Capital, on sait que c'est un des nerfs de la guerre et que c'est là-dessus qu'on travaille, c'est comment comprimer les pores de la journée, pour reprendre du coup une expression de Marx. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à prouver. Il n'y a aucune enquête quantitative qui le permet. Il pourrait y avoir des dispositifs, hein. On pourrait imaginer, par exemple, avoir ce que les ergonomes font très bien, mesurer un coût cardiaque des activités. Et voir si effectivement ça a pu augmenter. La Poste pourrait équiper un échantillon de facteurs de cardiofréquencemètre et de voir au fil des années si effectivement ça augmente ou pas. Bon, la Poste ne l'a pas fait, personne ne l'a fait pour elle, personne n'a l'autorisation de le faire, donc ça n'existe pas. Donc là, mon hypothèse selon laquelle ils ont obtenu davantage d'intensité de travail des facteurs, c'est à travers l'enquête plus qualitative, donc que je vais décrire un petit peu, à travers le fait d'avoir non seulement, bon, une petite échelle, hein, et pendant quelques semaines seulement, d'avoir participé au travail de facteurs, mais d'avoir aussi interviewé une centaine de facteurs un peu partout, dans différentes régions, en tout cas de France, pas ici, je le précise tout de suite, je préserve l'anonymat de vos factrices et de vos facteurs. Mais je pense, le modèle de la Poste s'appliquant de la même manière un peu partout, c'est assez facile de monter en généralité. Enfin, je veux dire, c'est pas une extrapolation délirante parce que la Poste a justement la volonté d'appliquer le même modèle partout. Donc, ce que je dis probablement se retrouve avec les factrices et les facteurs d'ici, si jamais il y en a dans la salle, qui et elles n'hésitent pas à en faire part. Donc voilà un peu la toile de fond, cette contradiction économique, cette volonté d'obtenir davantage de travail des facteurs. Comment j'écris ça et comment je décris ça dans le livre, c'est à travers trois récits parallèles, alors qui s'entrecroisent parce que c'est des chapitres courts, donc on retrouve les trois fils qui se suivent les uns les autres. Le premier, donc, c'est à partir d'une observation participante. où j'ai travaillé comme facteur dans un centre de distribution du courrier lambda dans une commune de la périphérie d'une grande agglomération française. J'ai travaillé 5 semaines. Il se trouve que j'y suis arrivé une semaine avant ce qu'on appelle une réorganisation. Une réorganisation, c'est le dispositif à travers lequel la Poste, justement, cherche à obtenir davantage de travail des facteurs. Une réorganisation, ça consiste en quoi ? Plusieurs choses, mais à minima, le socle commun qu'on retrouve partout, c'est que on avait, par exemple, pour distribuer tel quartier ou telle zone, 20 tournées, on va en avoir 15. Donc, on supprime 5 tournées, on réduit les effectifs et on redistribue, puisque évidemment les rues qui se trouvent sur les tournées supprimées ont droit encore à recevoir leur courrier, on va redistribuer ces rues-là sur les 15 tournées restantes, et donc on allonge le périmètre des tournées restantes, c'est ce qui explique l'augmentation du nombre de boîtes aux lettres desservies par chaque facteur. Et l'objectif de la Poste, c'est de faire pour chaque centre de distribution du courrier, donc pour chaque collectif de factrices et de facteurs, une réorganisation de ce type-là, tous les 2 ans. Donc c'est un choc périodique qui revient. Elle n'y arrive pas forcément parce qu'il peut y avoir des luttes, il peut y avoir des circonstances locales qui ralentissent le processus. Mais la vision de la Poste, c'est vraiment d'avoir ça tous les 2 ans. Et donc, si à un moment donné, par exemple, vous avez l'impression que votre courrier, il arrive beaucoup moins, de manière beaucoup moins fluide qu'auparavant, quand vous le croisez ou quand vous la croisez, vous pouvez demander à votre factrice ou à votre facteur, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une réorganisation ? Je pense qu'il y a une chance sur 2 pour que la réponse soit oui. Ou alors, la tournée est vacante, c'est un CDD, il y a aussi plein d'autres raisons possibles. Mais la précarité représentant à peu près 10% de l'effectif en global sur la France. La réorganisation est souvent une des raisons. Donc moi j'ai la chance, entre guillemets, et il n'y a que moi qui le vois comme une chance, hein, je peux vous assurer que les factrices et les facteurs ne le voyaient pas comme ça, j'ai la chance d'arriver une semaine avant une réorg, et j'ai la chance par ailleurs d'être gardé, alors que j'étais recruté comme CDD, au moment de cette réorganisation, alors que je vous l'ai dit, une réorganisation ça vise à réduire les effectifs, et donc en général les CDD et les intérimaires sont les premiers à partir, enfin sont ceux qu'on fait partir au moment d'une réorganisation, comme ça permet de maintenir la rhétorique d'une entreprise sociale qui a réduit ses effectifs de dizaines de milliers de personnes, donc 30 000 facteurs en 15 ans, il y en avait 100 000 facteurs au début du siècle, il y en a 70 000 aujourd'hui, sans avoir jamais procédé à un plan social. Est-ce que c'est plus favorable pour les personnes concernées d'être en CDD puis éjectées, ou d'être en CDI puis soumis à un plan de sauvegarde de l'emploi ? Je laisse le débat ouvert, mais en tout cas, la rhétorique de la Poste, c'est que c'est une entreprise sociale, puisqu'il n'y a pas eu de plan de sauvegarde de l'emploi. En l'occurrence, moi je suis gardé avec un certain nombre de CDD, probablement. Alors d'une part parce qu'il y a tellement peu de CDI et de fonctionnaires, j'y reviendrai peut-être, enfin si, dans la discussion, c'est pas mon objet principal, mais c'est mixte hein, les effectifs de la Poste, puisque c'était une administration, il y a encore quelques fonctionnaires, et puis maintenant la majorité sont des CDI et les fonctionnaires sont voués à disparaître. Donc il y avait tellement peu de fonctionnaires et de CDI que de toute façon il restait encore des tournées vacantes même après avoir réduit le nombre de tournées. Et puis aussi ils ont gardé des CDD et des intérimaires surnuméraires, probablement parce qu'ils anticipaient le volume de difficultés qui surviendraient à l'issue de la réorganisation, et effectivement ça n'a pas manqué. Puisque ce que je décris à l'issue de cette réorganisation, c'est d'abord des surcharges de travail. Alors d'abord la mienne, mais à la limite on s'en fiche, et puis on pourrait dire t'es un mauvais facteur, t'étais nouveau. Alors d'une part, je m'insurge, je n'étais pas un mauvais facteur, j'étais un très mauvais ouvrier du bâtiment. Godefroy a dit que j'ai jamais été vraiment bon, mais je pense avoir des qualités. J'aime bien le vélo, je faisais du vélo, et je suis un peu psychorigide, donc le classement j'aime bien. Donc j'étais pas un mauvais facteur, j'étais novice certes, mais j'étais pas un mauvais facteur. Et je faisais donc des journées de 9-10 heures en continu, sans pause, en avalant quelques biscuits sur le chemin de ma tournée, pour pouvoir accomplir à peu près, et en général jamais complètement, le périmètre de ma tournée. Sur ces 9-10 heures, donc au lieu des 7 heures journalières prévues, la plupart passaient à l'as. Ils commençaient un petit peu à noter, les chefs d'équipe commençaient un petit peu à noter les heures supplémentaires sur un cahier parce que l'inspection du travail était passée et que l'inspection du travail n'aime pas trop qu'on ne compte pas les heures supplémentaires. En tout cas, ça fait partie des trucs qu'ils regardent, notamment à la Poste. Mais une bonne partie de ces heures supplémentaires ne sont pas payées. Donc ça, c'est mon petit exemple, c'est pas très intéressant. Le fait est que, au-delà de mon cas, beaucoup d'autres factrices et de facteurs étaient également surchargés, c'est-à-dire qu'ils et elles étaient exposés au dilemme entre allonger sa journée de travail, donc on commence vers 6h30, pour certains vers 5h45, ça dépendait un peu de l'organisation qui était prévue. La question c'est, en commençant à 6h30, est-ce qu'on s'arrête effectivement à 13h30 comme c'est prévu, puisque c'est une vacation continue sans pause, ou est-ce qu'on continue de manière à bien distribuer son courrier, à acheminer le courrier de tous les destinataires de la tournée, à bien sonner à tous les interphones quand il y a des recommandés. Peut-être que vous me direz après dans la discussion qu'il vous arrive des fois que vous trouviez un avis de passage dans votre boîte aux lettres disant que vous étiez absent et que ça vous agace un peu parce que vous étiez là. J'espère que vous comprendrez mieux pourquoi à l'issue de ma présentation. Donc, on respecte ses horaires, soit on distribue bien, mais on ne peut pas faire les deux. Et donc, il faut résoudre un peu solitairement ce dilemme. Et ceux qui ne se résolvent pas par conscience professionnelle à ne pas bien distribuer le courrier se retrouvent avec une surcharge, avec le fait de finir en fait, à 15h, 16h, 17h, et sans que ce soit forcément payé. Et celles et ceux qui n'y parviennent pas, qui ne peuvent pas se le permettre parce qu'on ne va pas payer une nounou alors qu'on a des horaires qui théoriquement permettent d'aller chercher les enfants l'après-midi et que quand on est payé 1200 euros par mois, on ne va pas payer une nounou pour pouvoir finir son travail qui lui-même ne va probablement pas être payé en heures supplémentaires. Donc on ramène du courrier. Et on a comme ça, on voit au fur et à mesure dans le centre de distribution du courrier où j'ai travaillé, les cagettes qui s'empilent avec du courrier en retard des jours précédents. Et c'est assez démentiel parce que ça va vite. Hein. Si vous avez une ou deux cagettes par jour, au bout d'une semaine, vous en avez sept et vous disparaissez. Vous voyez comme ça certaines factrices et certains facteurs disparaître derrière leur bac de courrier en retard parce qu'ils n'arrivaient plus à distribuer. Bon, en plus, vous voyez, vous avez un casier devant vous. Donc si les cases sont déjà remplies de courriers que vous avez ramenés la veille, ça fait du travail supplémentaire de remettre le courrier que vous avez ramené la veille. Quand vous triez le courrier qui arrive le jour, les cases, elles ne sont plus assez grandes pour prendre le courrier qu'il y a dedans. Donc, vous prenez encore plus de temps. Donc, évidemment, c'est un puits sans fond. Ça devient extrêmement difficile. C'est générateur d'arrêt maladie très important. Donc, voilà, je décris comment des factrices, des facteurs épuisés se mettent en arrêt. Et ce sont bien souvent les facteurs et factrices les plus consciencieux qui, justement, ne réussissant pas à faire leur travail, s'en désolent. Je fais tout un chapitre où je fais une comparaison avec son propre foyer, son propre domicile. Sa tournée, quand on est titulaire de sa tournée, alors ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je pourrais y revenir, quand on est titulaire de sa tournée, généralement, d'une part, c'est acquis de haute lutte, parce qu'avant, on était remplaçant et on tournait sur des différentes tournées. Donc là, on a la possibilité de s'installer, de se familiariser, de connaître ses usagers, ses destinataires, d'avoir des relations avec eux et du coup, de nouer aussi des formes d'engagement moraux vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que si on ne distribue pas bien le courrier, on est mal, on ne se sent pas bien personnellement. Et en même temps, les conditions sont faites, pour un certain nombre de tournées en tout cas, pour qu'il soit difficile, voire impossible de distribuer le courrier à tout le monde. Donc au bout d'un moment, quand on voit la tournée se salir, le vocabulaire de la propreté est très présent chez les factrices et les facteurs, on parle de tournée qui n'est pas nettoyée, qui se salit, voire qui est dégueulasse, ou on l'a salopée, ou la tournée est morte, elle est enfoncée, bon, il y a tout un tas de termes, mais ça tourne beaucoup autour de la propreté et de la saleté, c'est un peu comme quand on est envahi par les punaises chez soi. Au bout d'un moment, on a envie de déménager. C'est un peu comme ça que j'interprète cet arrêt maladie, un peu plus que comme un arrêt maladie, mais vraiment avec cette idée de... On quitte un foyer qui devient invivable. Et puis après, il y avait les gens comme moi, CDD, qui tournent comme ça, on nous faisait tourner d'une tournée à l'autre en fonction, c'est laquelle qui est la plus enfoncée, tiens, la chef va te mettre là, et puis on va faire celle-là aujourd'hui, on va faire celle-là demain, etc. Il y a toujours... on arrive, il y a quatre bacs de courrier en retard, on repart, il y en a cinq, et... Les gens comme moi étaient de moins en moins consciencieux parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de développer une conscience professionnelle, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de connaître les destinataires, les usagers. Donc, ils n'avaient pas... On avait conscience du mal qu'on faisait en distribuant mal le courrier, mais on n'avait pas conscience exactement de à qui on le faisait, puisque ce n'étaient pas des visages familiers. Et par ailleurs, la désorganisation était telle que on ne pouvait même plus savoir si on avait bien bossé ou pas, puisque à la fin de la journée, qu'on soit extrêmement consciencieux, si on était extrêmement consciencieux, il y avait trois bacs, si on n'était pas du tout consciencieux, il y en avait six, mais plus personne ne savait exactement évaluer si on avait bien bossé, si on avait seulement essayé ou pas. Donc c'est aussi l'occasion de comportements de plus en plus déviants. Pour donner un exemple de comportement déviant, je ne sais pas si vous avez idée, mais dans les villes, vous avez des coffres marrons qui traînent dans le tissu urbain. Donc, ce sont des coffres où les facteurs mettent des facteurs en voiture mettent pour les facteurs à vélo un paquet de courrier qu'ils ne peuvent pas distribuer parce que vous ne pouvez pas tout mettre sur le vélo. Donc, vous rechargez, vous distribuez le courrier, vous partez avec un chargement, vous distribuez le courrier, puis vous rechargez en cours de route en vous servant dans ce coffre urbain. Bah, par exemple, on retrouvait plusieurs jours après, dans ces coffres, donc qui avaient été laissés dans le froid, dans l'humidité, la nuit, etc., on retrouvait des tonnes de courrier. Et ça, c'était le plus déviant qu'on voyait sur le centre où j'étais, mais dans la presse locale aussi, là encore, sous un format anecdotique, vous retrouvez souvent des anecdotes de facteurs qui ont brûlé le courrier, qui l'ont jeté dans le ravin, dans la forêt, etc. Alors c'est souvent traité de manière drôlatique, mais ça l'est pas du tout. Enfin, c'est complètement lié à ce que je raconte. Ça crée aussi, bien que c'est un sort à peu près commun à toutes les factrices et à tous les facteurs du centre, ce que je raconte là, cette surcharge, ça ne crée pas pour autant une solidarité immédiate et une conscience de cette communauté de destin, enfin conscience de communauté de destin peut-être, mais comme chacun est sur sa tournée, le nez dans le guidon si je puis dire, puisque là c'était des tournées à vélo dans le centre de distribution où j'étais, eh bien c'est propice à ne pas regarder la tournée du voisin ou à la regarder uniquement sous l'angle de au fond il a été mieux servi que moi et sa tournée est plus légère que la mienne, à chaque fois que je rentre je vois que lui il est déjà rentré et il est déjà parti du centre, donc au fond c'est moi qui ai été surchargé. Et quand il commence à y avoir des contestations autour de ma tournée est trop chargée, donc la plupart du temps, la direction dit « oui, mais vous allez voir, vous allez vous habituer, etc., va temporiser, etc. » en espérant que ça se tasse, en suggérant aussi à la factrice ou au facteur qu'il faut peut-être se remettre un petit peu en question, que s'il n'y arrive pas, c'est peut-être qu'il est un peu lent, ou qu'il ou elle fait de la surqualité, comme la Poste aime à dire. Et si jamais la factrice ou le facteur continue à râler et à se faire entendre à tel point qu'il finit par y avoir une forme de reconnaissance, par exemple par un accompagnement d'un cadre qui va accompagner la tournée et qui va dire que quand même, oui, c'est long. Et donc, il va y avoir des aménagements de sa tournée. Ça va être en prenant un morceau de sa tournée et en le rajoutant à un autre morceau de tournée. Ça ne va pas être en rajoutant une tournée. J'ai vu le cas, par exemple, sur le centre où je me trouvais, une factrice qui avait fini par avoir gain de cause. Le résultat est qu'un morceau de tournée avait été mis sur la tournée d'un facteur qui râlait moins et qui, du coup, en revanche, par-devers lui, en a nourri pas mal d'amertume à l'égard de l'autre factrice qui était vue comme la cause de sa propre surcharge. Et au milieu de tout ça, ce que je décris aussi, dans ce premier récit, c'est les questions des facteurs. C'est de se dire, mais comment c'est possible qu'ils nous mettent des tournées aussi longues? Comment est-ce qu'ils peuvent déterminer que ça rentre, que ce contenu de rue, de courrier à distribuer, rentre dans le contenant des 7 heures quotidiennes? Avec donc, beaucoup de perplexité. Et peu de connaissances sur la manière dont la Poste fait, parce que la Poste communique assez peu là-dessus. Donc, généralement, quand vous discutez avec les gens, mais aussi bien d'ailleurs les factrices et les facteurs que leurs responsables hiérarchiques directs, c'est-à-dire juste au-dessus des chefs d'équipe, et puis au-dessus des chefs d'équipe, ce qu'on appelle un responsable de production, et au-dessus du responsable de production, le directeur d'établissement, aucun d'entre eux, grosso modo, ne sait comment on a déterminé. Précisément, techniquement, comment on a déterminé le périmètre des tournées, donc la charge de travail qui va avec. Tout ce que pourront vous dire la plupart des factrices et des facteurs que vous interviewerez, pas par manque de compréhension, mais tout simplement par manque d'information qui leur est donnée, c'est le fait que c'est fait par ordinateur. Donc on rentre dans la magie des algorithmes, alors qu'ils sont, c'est courant aujourd'hui de parler d'algorithmes avec Uber, etc. Mais là on est sur de l'algorithme un peu vieux, un peu ancien, je reviendrai sur le fait de à quel point il est ancien, un peu vieux, un peu ancien, et qui n'est pas en temps réel comme pour Uber, où les choses sont recalculées à chaque fois que vous avez fini une course. C'est un algorithme qui, à un moment donné, un ordinateur va dire, bon, bah, ta tournée avant la réorg, elle fait 4h23 minutes 59 secondes. Je prends cet exemple parce que c'était la durée qui était attribuée à ma tournée avant la réorganisation, que moi je faisais en 6-7 heures péniblement. Donc 4h23 minutes 59 secondes, tu dois bosser 7 heures, ça veut dire que tu es oisif pendant 2 heures et quelques. Et donc on va te rajouter des rues jusqu'à atteindre les 7 heures. Et les durées attribuées aux différentes rues de Montpellier ou d'ailleurs, elles sont déterminées par l'algorithme, l'ordinateur de celui qu'on appelle l'organisateur. Donc l'organisateur, ça pourrait ressembler à un surnom que j'ai voulu donner à ce personnage. On a lui donné une espèce de nom de super méchant. Mais en fait, l'organisateur, c'est le nom qui est attribué à cette personne, à cette fonction à la poste. Hein, je n'ai absolument rien inventé. Et donc le deuxième fil que j'essaye de tirer dans le livre, le deuxième récit, peut-être le plus aride et rebutant, et en même temps, je pense, le plus important, au moins pour les factrices et les facteurs, puisque ce livre, il est aussi pensé pour elles et eux, pour qu'ils puissent un peu se désinhiber vis-à-vis de la prescription qui leur est donnée. Le deuxième fil du livre, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette manière, comment la poste, qu'est-ce qu'il y a dans cet algorithme, comment la poste détermine, affecte des durées aux tournées et dit que ma tournée, elle fait 4h23 minutes 59 secondes alors que je fais toujours plus et que donc il faut me rajouter 2h37 en fonction de la manière dont elle l'a calculé. Donc là, il y a tout un travail plus auprès de cadres, de dirigeants de la poste, d'ingénieurs de la poste et dans les archives, parce que même les ingénieurs actuels de la poste, en fait, ne savent pas forcément dire, quand ils veulent bien parler, ne savent pas forcément dire de quoi est fait leur algorithme. Donc il y a eu tout un travail dans les archives, plus ou moins publiques ou privées, enfin plus ou moins publiques, certaines publiques, d'autres privées, pour essayer de comprendre comment ils raisonnaient. Alors quand on va dans les archives, c'est assez rigolo parce que comment ils raisonnent, jusque dans les années 80, leur raisonnement consiste à dire que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ils n'avaient pas anticipé qu'ils allaient faire ça, n'importe quoi. Mais ils expliquent très bien comment, alors que du côté des chèques postaux, donc les chèques postaux, je ne sais pas ce qu'on appelle aujourd'hui les centres financiers, mais fut un temps, c'était des armées de petites mains féminines, parce que c'était très sexué, de femmes qui enregistraient les chèques que vous adressiez. Et donc là, c'était un travail très taylorisé dans les quatre murs d'une usine. Même chose pour les centres de tri. Là où on triait le courrier avant le tri fait par les facteurs, c'était aussi très taylorisé dans une usine avec des cadences. Et donc l'envie était forte, hein. Je veux dire, c'était des adeptes du taylorisme. Les ingénieurs de la poste, ça avait beau être une administration publique, c'était vraiment, ils étaient allés aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale pour aller voir les méthodes tayloriennes dans les entreprises américaines. Et ils ont envie de faire pareil. Enfin, ils se disent, tiens, on pourrait peut-être faire pareil quand même pour les facteurs, de dire tout ça, on va attribuer des temps prédéterminés, chronométrés, et on va comme ça déterminer les durées des tournées. Et puis ils disent, non, c'est pas possible. Vous voyez bien que entre Montpellier et la banlieue parisienne, entre les montagnes alpines et la Guadeloupe, enfin, il y a des différences de climat, il y a des différences topographiques, il y a des différences sociologiques qui font qu'on ne peut pas appliquer les mêmes normes partout. Et ça, vous le retrouvez affirmé noir sur blanc. C'était le reste de mon PowerPoint, c'est des jolies archives vintage, mais ça ne sert à rien que je vous les montre, juste pour voir des facteurs des années 80 en photo à côté. Jusque dans les années 80, c'est le discours officiel de la Poste, c'est pas possible. À tel point, enfin, vous avez des critiques méthodologiques de ce que fait aujourd'hui la Poste qui sont vraiment assassines, rétrospectivement. Et ça bascule, tout d'un coup. Alors, comment on fait, du coup, si quand même la question, c'est comment on fait à cette époque-là pour déterminer le périmètre d'une tournée ? On fait du taylorisme, mais du taylorisme vraiment classique, du taylorisme du temps de Taylor, pas du taylorisme des rêves de Taylor. C'est-à-dire qu'on va chronométrer les facteurs. On a, avant des organisateurs, on a les vérificateurs, ceux qui accompagnent les factrices et les facteurs sur leur tournée et qui chronomètrent. Ce qui est l'objet d'un nombre de conflits pas possible. Hein, faut pas du tout faire l'éloge de cette époque-là. Puisque, par exemple, quand le facteur discute avec la petite dame qui demande où se trouve le bureau de poste ou bien qu'est-ce qu'elle peut faire pour telle opération, le vérificateur va couper le chronomètre alors que le facteur il a l'impression qu'il fait son travail. Et donc, il y a tout un tas de questions qui se posent, comme classiquement dans le taylorisme, dans qu'est-ce qu'on met dans le temps chronométré et qu'est-ce qu'on en sort. Mais il reste que ces vérificateurs allaient sur chacune des tournées et à chaque tournée était chronométrée pour qu'ensuite on puisse lui attribuer une durée. Ce qui n'arrivait d'ailleurs pas très très souvent parce que la Poste n'avait pas tellement envie de réorganiser. Hein. Jusqu'au début des années 2000, le volume de courrier augmente à la même vitesse que le PIB. Donc, grosso modo, vous ne faites rien, la productivité des facteurs, pour le coup, elle augmente. La productivité, en termes juste de distribution des courriers, le poids de la sacoche augmente. Donc, c'était des fois davantage à la demande des facteurs qui avaient réorganisation pour raccourcir les tournées que à l'initiative de la Poste. Et puis, vous avez, au début des années 2000, les 35 heures. Donc, comme les durées des tours, enfin, les périmètres des tournées sont associés à leur durée supposée et que cette durée supposée, elle est évidemment référée à la durée légale du travail. Si vous changez la durée légale du travail, vous êtes obligé de revoir tous les périmètres de tournée. Donc là, il y a un choc ponctuel, mais une fois, à la limite, une fois qu'on l'a passé, le choc est passé. Mais il y a un choc structurel qui se rajoute à ça, c'est le début de la baisse du courrier et donc le fait que la Poste se lance dans cette logique de réorganisation perpétuelle pour réduire progressivement le nombre de tournées, pour courir après la baisse du courrier et limiter la casse en termes de baisse de rentabilité. Et quand je dis baisse de rentabilité, au demeurant, elle a réussi à maintenir sa rentabilité. Hein. La Poste est toujours excédentaire, et y compris sa branche courrier. Donc elle y a quand même bien réussi. Mais donc ça l'amène à se dire, des vérificateurs qui vont courir derrière chaque facteur alors qu'il y a 75 ou 80 000 tournées en France, c'est beaucoup trop lent alors qu'on se fixe pour objectif de réorganiser tous les deux ans. Donc on va automatiser tout ça et on va faire passer tout ça par un logiciel. On va rentrer un certain nombre de paramètres. Oui, on s'était dit tout un tas de trucs, c'était pas possible. Méthodologiquement, c'est n'importe quoi parce qu'il y a trop de diversité. On peut pas résumer tout ça dans un modèle. Mais là, s'ils décident de faire un modèle. Ce qu'on appelle un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Donc après, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a mis dans le modèle. Il y a toujours un humain derrière un algorithme, derrière un modèle, qui a dit qu'est-ce qu'on fait rentrer dedans et quels éléments de la réalité on a décidé de ne pas faire rentrer. Par exemple, dans ces modèles, la Poste dit que discuter avec un usager, c'est un temps parasite. Pareil, le terme n'est pas de moi, il est de la Poste. Donc ça ne rentre pas dans le modèle. Voilà, déjà, c'est un temps qui n'est pas valorisé. Ça peut exister dans la réalité, hein, que des facteurs discutent avec des gens, ça arrive. Dans Bienvenue chez les Ch'tis, ça arrive beaucoup, à en croire Danny Boone. Mais ce n'est pas du tout compté dans le temps qu'alloue la Poste aux facteurs dans son modèle. La Poste, elle va faire rentrer trois séries de paramètres, le trafic estimé de la tournée et même le trafic estimé de chacune et chacun d'entre vous, en tout cas si vous habitez en immeuble, du trafic reçu par votre immeuble, mais si vous habitez en maison, de votre trafic juste à vous dans votre maison. Ensuite, elle va faire rentrer distances, des éléments géographiques et postaux sur la tournée, les distances, le nombre de boîtes aux lettres, le nombre de boîtes aux lettres par immeuble, si c'est des immeubles, etc. Et puis, elle va mouliner tout ça, parce que ça vous donne des volumes, mais pour que ces volumes soient convertis en durée, elle va mouliner tout ça avec des cadences. C'est-à-dire qu'elle va dire que, par exemple, pour remettre une boîte aux lettres dans une boîterie de boîtes aux lettres qui compte entre 3 et 9 boîtes aux lettres, il faut 3,33 centiminutes. On ne parle pas en secondes, on parle en centiminutes à la Poste, ce qui est classiquement taylorien, hein, ce n'est pas spécifique à la Poste. Et donc, on va attribuer 3,33 centiminutes pour remettre une lettre, donc 2 secondes et 126 millièmes de seconde, un truc comme ça, pour remettre une boîte aux lettres dans ce type de boîte aux lettres. Donc, et on va avoir des cadences fixées une fois pour toutes qui ne sont pas dépendantes de tel ou tel environnement et qui vont comme ça tourner dans le modèle et qui vont permettre d'attribuer des durées aux tournées. Et ça, c'est ce qui est fait à partir des années 2005, en gros, et ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Le truc un petit peu croquignolé, on va dire, c'est que la Poste, quand elle s'adresse à ces facteurs au moment d'une réorganisation, quand ils vont poser des questions sur « mais comment vous comptez ?» donc qui sont les questions que moi, je ne me posais pas au départ, mais en entendant les facteurs les poser, je me les suis posées. C'est pour ça que je suis allé faire ce travail dans les archives ou en allant interviewer des ingénieurs. Quand ils posent cette question, de toute façon, l'encadrement local, les directeurs d'établissement, ils ne savent pas. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le modèle, c'est l'ordinateur qui l'a dit. De toute façon, c'est scientifique. Donc, puisque c'est scientifique, je ne vois pas ce qu'il y a à discuter. Bon, dès lors que la science apparaît comme un barrage à la réflexion plutôt qu'une invitation à la controverse sur ce qu'on rentre dans le modèle, etc., déjà, il y a quelque chose d'un petit peu biaisé. C'est-à-dire, ça pourrait être très sérieux. Il n'empêche que c'est pas parce qu'on a dit que c'était scientifique et sérieux qu'on peut se permettre d'éteindre la discussion. Il faut justement le prouver. Mais le truc un peu croquignolet, c'est que ça n'était pas si sérieux que ça. Dans la mesure où un certain nombre de facteurs et de leurs représentants à travers ce qu'on appelait dans l'ancien monde les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail, donc qui ont été supprimés par Macron, qui existe encore à la Poste, mais c'est une exception, un certain nombre de facteurs et de leurs représentants ont tenté de contraindre l'employeur à expliquer comment il a fabriqué ses cadences. Donc, les directions de la Poste ne voulaient pas s'en expliquer, il a fallu passer par la case tribunal. Puisque le droit reconnaît à l'employeur le droit d'organiser le travail comme il l'entend, mais il lui fait quand même obliger. Il y a quelques contre-pouvoirs à la subordination des salariés, et dans les contre-pouvoirs collectifs, il y a donc cette représentation du personnel qui a du moins le droit d'avoir un certain nombre d'informations sur comment l'organisation du travail est conçue. Et donc la Poste a dû donner quelques documents. Donc qui datait des années 90, donc on s'est aperçu que ces cadences avaient un quart de siècle, enfin 20 ans à l'époque quand elles ont été sorties. Mais en fait, ces quelques documents, à part cette datation approximative, ne donnaient pas du tout de réponse aux questions posées par les CHSCT et ne permettaient pas d'évaluer la fiabilité des protocoles qui avaient permis de les établir, parce qu'ils n'en avaient gardé apparemment, et en tout cas c'est leur défense, aucune trace. Ça a été perdu. Dans un déménagement, a-t-il été ajouté par un avocat dans une audience. Donc, ce qui était présenté comme parfaitement scientifique aux facteurs au moment où on les réorganise, s'avère finalement complètement évanescent. Ce n'est pas évident de définir ce qu'est la science, mais on pourrait à minima s'entendre que dans la science, le minimal est de garder la trace, le registre des expériences et des protocoles qui ont permis d'élaborer un certain nombre de résultats. Donc là, on était évidemment complètement sorti de ce cadre. La troisième ligne de récit, elle est un petit peu en décalage. Elle continue de parler de la Poste, mais par le détour, et elle est en décalage y compris vis-à-vis d'une écriture académique, par le détour de dialogue imaginaire avec Taylor, Frederick Winslow Taylor. Donc c'est l'inventeur, celui à qui on a fait porter le chapeau du taylorisme. Après, il l'a bien mérité puisqu'il a été extrêmement propagandiste de son système. Donc c'est un ingénieur états-unien de la fin du 19e siècle et qui meurt au début en 1915, qui est dans l'industrie métallurgique à Philadelphie principalement, mais qui ensuite va devenir une espèce de consultant en organisation de tout un tas d'entreprises industrielles aux États-Unis, et qui, alors à qui on associe par exemple des choses comme la parcellisation des tâches, le fait de spécialiser au maximum les travailleurs, ce qui n'est pas un angle très important en réalité dans son œuvre. Taylor, son idée plutôt est de dire que c'est fatigant toutes ces guéguerres entre les travailleurs et les employeurs sur le rythme de travail, où les employeurs, ils sont toujours en train d'essayer de gratter le maximum. Ils essayent d'obtenir le plus de travail possible des travailleurs. Ils leur mettent du salaire à la pièce ou du salaire au rendement pour essayer de les faire cravacher plus. Et puis quand ils arrivent à faire les cravacher plus, bah, du coup, ils baissent le salaire au rendement. Comme ça, ils ont plus de production, mais à moindre coût. Pendant que les salariés, voyant ça, ils se disent « je vais arrêter de cravacher plus parce que je sais que de toute façon, l'employeur va baisser mon tarif ». Et Taylor trouve ça parfaitement lassant et se dit « au lieu de ces guéguerres interminables où chacun est le dupe de l'autre, il faut de la science ». Et c'est la science qui va régler ce problème-là, qui va être le juge de paix et qui va permettre de déterminer une fois pour toutes quel est le bon temps pour faire tel geste, pour accomplir tel mouvement ou telle opération. Le projet politique de Taylor, et j'insiste sur le fait, mon sens, c'est politique, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est de substituer à toute la bataille sur le rythme de travail, de substituer une prescription qui serait scientifiquement fondée et donc incontestable, au demeurant par les deux parties, même s'il est clair qu'il travaille pour une partie plutôt que pour une autre. Son idée, c'est que ça deviendrait incontestable pour tout le monde. Donc j'essaye de faire des dialogues imaginaires avec Taylor dans le livre, à la fois un peu pour alléger le propos, voilà, il y a une tonalité que j'espère un peu rigolote, mais qui est fondée quand même sur les œuvres complètes de Taylor. Donc il y a un certain nombre de citations qui sont extraites de ses œuvres complètes, qui sont par ailleurs signalées comme telles, et qui permettent, à mon avis, de révéler les implicites de la posture de la Poste. Donc il y a un décalage un petit peu narratif à travers le fait que voilà, c'est sous la forme de dialogue entre moi et Taylor, qui est mort il y a plus d'un siècle. C'est aussi un petit décalage un peu théorique, parce que je trouve qu'un peu trop souvent, dans les analyses, qu'elles soient journalistiques ou sociologiques, du travail aujourd'hui, on aime bien dire que les organisations du travail contemporaines, elles comportent toujours quelque chose d'assez inédit par rapport à ce qu'on a connu avant. Et là, moi, j'ai envie de dire, ce qui se passe à la Poste, ça a beau être un algorithme, et on peut l'habiller d'un joli mot moderne, ça reste du taylorisme tout à fait ce qu'il y a brutal et archaïque. Enfin, archaïque, voilà, il y a un logiciel un peu plus puissant qui donne corps au rêve de Taylor, puisque le rêve de Taylor, c'était... Lui, ce à quoi il est parvenu au cours de sa vie, c'est de pouvoir chronométrer tout un tas d'opérations et puis de dire, bah, pour faire telle opération, il faut tant de temps. Pour faire telle opération, il faut tant de temps. Donc, il avait un registre comme ça de tout un tas d'opérations industrielles pour lesquelles il avait établi des temps. Mais son rêve, c'était en fait de pouvoir décomposer tous les gestes que peut faire un humain, d'attribuer à chacun de ces gestes une durée bien précise, scientifiquement établie de son point de vue, de telle sorte qu'un jour, il ne serait plus nécessaire de faire de chronométrage, de faire en sorte que n'importe quelle nouvelle opération serait réductible à une somme de petites briques de gestes d'êtres humains qui ont déjà été calibrés, auxquels on a déjà imputé un temps. Et donc, il serait possible de recombiner ça. Et c'est ce que permet l'ordinateur, c'est ce que permettent les algorithmes, et ce que permettent des cadences qu'on a établies il y a 25 ans, comme l'a fait la Poste. Donc la Poste, d'une certaine manière, et c'est ce que je fais dire à mon Taylor dans le livre, exauce les rêves le plus fous de Taylor, parce qu'elle arrive à déployer dans un algorithme quelque chose qui va s'imposer simultanément à 70 000 travailleurs dans un pays. Par ailleurs... Et c'est presque un à côté, mais c'est intéressant, c'est qu'évidemment, du côté de Taylor aussi, les défaillances méthodologiques sont énormes. Alors lui aussi, il a perdu d'ailleurs un certain nombre de registres au passage. Je ne sais pas si c'était dans un déménagement, mais on retrouve peut-être pas des défaillances méthodologiques aussi énormes qu'à la Poste, mais on retrouve des choses hautement discutables, sans compter que de toute façon... indépendamment du fait est-ce que le recueil des observations des chronométrages a été discutable ou pas, le fait de passer... d'une série d'observations de combien de temps il faut aux gens pour faire telle ou telle opération, à dire la cadence, c'est ça, ça n'est pas une opération scientifique, c'est une opération patronale, c'est une opération de prescription. Puisque quand vous faites des observations, tout ce que vous retenez, tout ce que vous voyez, c'est un éventail de temps. Alors vous pouvez calculer une moyenne, vous pouvez calculer ce qu'on appelle en statistique un mode, c'est-à-dire le temps le plus fréquent, vous pouvez calculer des écarts-types, vous pouvez calculer plein de choses qui essayent de donner sens à vos données, mais à un moment donné, dire la cadence, c'est ça, ça, c'est une prescription d'origine patronale, et ça ne peut jamais, 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 même si le travail en amont est bien fichu, ça ne peut jamais être une prescription d'origine scientifique. Il n'y a aucune science qui dit qu'il faut tant de temps pour distribuer telle lettre. Donc, ce que je voulais faire ressortir avec ces dialogues avec Taylor, c'était la posture politique, enfin la théorie politique qui est derrière, plus que la machine technique, la théorie politique qui est derrière, c'est de justifier le despotisme en entreprise par autre chose, par la science, par une légitimité qui jusque-là n'avait pas été, une revendication de légitimité qui jusque-là n'avait pas été saisie par le patronat. Et je pense que la véritable innovation taylorienne, parce que sinon, plein d'autres choses en fait, la parcellisation des tâches avait été pensée bien avant, enfin, la véritable innovation taylorienne, elle est là, et elle est dans cette théorie politique dont il se fait le propagandiste. Ça me permet d'arriver... en conclusion du livre, sur ce qui a motivé mon envie d'aller plus loin sur la question de l'organisation du travail des facteurs, c'est que je trouvais qu'on avait là un beau cas d'école pour réfléchir, pour poursuivre une réflexion qui d'ailleurs a été amorcée depuis plusieurs années par différents travaux. Je pense, je ne sais pas si vous connaissez Thomas Coutreau, Alexis Cuquier, enfin des gens qui ont remis un peu au goût du jour des questionnements sur la démocratie au travail. Si on trouve, c'est mon cas par exemple, que la démocratie c'est plutôt bien et plutôt mieux que d'autres régimes politiques, comme dirait l'autre, pourquoi cette idée que la démocratie c'est plutôt bien, ça devrait s'arrêter aux frontières de l'entreprise, c'est-à-dire quand même un endroit où on passe pas mal de temps de sa journée. Donc c'était reposer à nouveau frais la question de la démocratisation du travail, plus modestement, de l'élargissement des possibilités d'intervention des travailleurs eux-mêmes sur leurs conditions de travail, à partir d'un exemple qui est plutôt, voilà, qui de manière caricaturale montre plutôt l'inverse, c'est-à-dire la dépossession des facteurs qui pourtant, enfin voilà, c'est tout un tas de savoir-faire, c'est une conscience professionnelle développée, etc. Par les facteurs, c'est pas perçu comme un bullshit job a priori. Alors de plus en plus, mais c'était pas forcément le cas. Mais il y a une dépossession complètement de la pensée de leur travail et une revendication du monopole de la rationalité sur la définition des temps de la charge de travail. Si on démocratisait, on se lancerait des défis pas possibles, parce que répartir la charge de travail entre les facteurs, garantir une égalité de traitement entre un facteur à Montpellier, à Marseille, à Paris, dans les montagnes ou dans la campagne, ce serait extrêmement compliqué. Mais ça me paraît un peu plus enthousiasmant que de se dire qu'on remet ça dans les mains de quelques ingénieurs qui logent des formules dans un ordinateur. Voilà.
Merci.